Eh bien, je remercie Anne-Marie et Jean-Pierre de cette invitation. Bon, vous savez bien qu'en rhétorique, on doit commencer par une sorte de captation, n'est-ce pas? Et la captation, elle est déceptive quand on est un petit peu familier, justement, de la rhétorique telle qu'elle est pratiquée par les rhéteurs ou les sophistes. Donc, je commencerai, après ces remerciements, par préciser que je suis un peu un étranger à beaucoup de titres aussi, puisque je ne suis pas un spécialiste de Platon. De quel droit écrivez-vous sur Platon, me disait-on. Quand j'écris sur Descartes, on me dit la même chose. Pas seulement m'empêcher de travailler avec Bessade ou avec Narcy, quand il s'agissait. C'est une façon de vous dire que, pour moi, le travail que je fais sur Platon, qui est quand même un tout petit peu sérieux, j'espère, est un aspect d'un travail beaucoup plus large qui consiste à s'interroger sur, alors pas sur le statut des formes en philosophie, mais si vous voulez, je dirais d'une façon philosophique, sur le rapport qui existe entre les schèmes spéculatifs d'une doctrine, vous voyez, les structures doctrinales, et les modalités selon lesquelles elles se composent, elles s'exposent dans des formes, dans des genres. Pourquoi la forme dialogue a peut-être quelque chose à voir avec la spécificité philosophique de la philosophie de Platon? Comme on dit, les formes seraient à remettre en relation avec la théorie des formes. Pourquoi Descartes écrit sa métaphysique dans un tempo méditatif, même s'il reconfigure cette métaphysique dans d'autres textes? Pourquoi Spinoza ne pouvait exposer sa métaphysique, lui, que selon une exposition géométrique? Bon, et c'est à partir de ce type d'interrogation que j'ai développé un certain nombre d'outils. Alors là, second sacrilège, n'est-ce pas, j'ai utilisé des outils linguistiques pour essayer de trouver des médiations permettant de lire les textes philosophiques, et ça m'a valu, là, cette fois-ci, la IR de l'inspection générale ou des collègues. Bon, enfin, ceci dit, j'ai souvent travaillé le Gorgias, c'est pour ça que ça me faisait plaisir de voir des élèves de terminale, parce que j'ai beaucoup aimé, quand j'avais des terminales, j'en ai eu beaucoup et longtemps, étudier le Gorgias. Ceci dit, mes petits amis, je ne savais pas que vous seriez là, on m'avait dit des agrégatifs, et puis nous sommes dans le cadre du projet Dialogos, et si évidemment il y a des choses un tout petit peu difficiles, ben, vous me pardonnerez, mais votre professeur ensuite, j'en suis sûr, fera les choses. Alors donc, après ces petites circonlocutions préalables, n'est-ce pas, qui ne sont pas destinées à vous perdre, mais à nous retrouver, je commencerai en citant un passage de la lettre 7, qui articule, je dirais, l'accès à la connaissance, à la sagesse, à sa condition dialogique, avec pour effet une jouissance intellectuelle et contemplative, traduite ici comme une intensité lumineuse, qui trouve sa limite dans les limites de la condition mortelle. Je cite. Or, après beaucoup d'efforts, lorsque sont frottés les uns contre les autres, ces facteurs pris un à un, nom et définition, vision et sensation, lorsqu'ils sont mis à l'épreuve au cours de contrôles bienveillants où ne s'immisce pas l'envie, vient tout à coup briller sur chaque chose la lumière de la sagesse et de l'intelligence avec une intensité que peuvent supporter les forces humaines. Autrement dit, lorsque le dialogue est conduit sous les auspices de la bienveillance, c'est un dialogue coopératif qui va rendre possible la réduction du multiple dans lequel nous sommes pris dans le sensible et une montée progressive vers une illumination qui est celle de la contemplation qui nous permet de nous dessaisir à la fois de notre enveloppe corporelle et du dialogestai, du discours. Et un des dialogues de Platon que j'aime beaucoup, mais qui n'est peut-être pas de Platon, mais là je n'entre pas dans cette considération, qui est l'Alcibiade majeure, décrit de façon quasi parfaite le dispositif général d'ascension par lequel, conduit par Socrate, eh bien, Alcibiade, qui est une figure, hein, qui est un personnage, est censé progressivement se convertir en quelque sorte et se mettre à l'école de Socrate. Et du coup, on atteindra une définition du juste avec la condition suspensive qu'il faut déjà connaître l'essence de l'âme pour savoir ce qu'est le juste. Et on déterminera métaphoriquement cette essence. Mais c'est un petit dialogue tout court. Alors que le Gorgias, au contraire, c'est un énorme dialogue, très long, et on pourrait dire que c'est l'anti-Alcibiade. Autrement dit, le Gorgias, dans son ensemble, dans ses trois séquences articulées, correspondrait à la première partie de l'Alcibiade, qui est la phase réfutationnelle, et c'est une phase qu'on aurait étendue. Alors pourquoi je les mets en vis-à-vis? Eh bien parce que le Gorgias nous convie à une progression inversée, comme à une descente aux enfers par palier vers les ombres, où le philosophe, progressivement mis en accusation, est comme piégé dans l'anticipation de sa mort par la condamnation à laquelle le vouent ses adversaires, doit accepter le sacrifice qu'exige l'héroïsme de la pensée lorsqu'elle met la justice et la vérité au-dessus de tout. Ainsi, sous l'apparent triomphe dialectique d'un Socrate passé maître dans l'art de l'Éthikos, se joue obscurément un autre drame, une autre scène, qui renverse le lien qui relie de façon nécessaire l'exercice de la philosophie à l'éros et à l'amour, comme on l'a vu dans l'Alcibiade. Et cette fois-ci, le lien est établi entre, je dirais, l'activité philosophique et Thanatos, ou la mort. Et c'est cet obscurcissement progressif dont nous aurons à comprendre les raisons et les mécanismes, même si, comme je l'essaierai de le montrer, une luminosité indirecte et diffuse subsiste pour nous indiquer et témoigner de ce que la mise à mort symbolique du philosophe n'est pas la mort de la philosophie, mais peut-être une de ses conditions de possibilité. Alors pardonnez-moi les accents quelque peu lyriques de cette considération préliminaire, hein. Ils ont pour vocation, sinon justement la capture rhétorique de mon auditoire, cette fois-ci d'un point de vue platonicien en quelque sorte, comme si je commençais un dialogue. Il s'agit de restituer au dialogue de Platon, ou du moins à certains d'entre eux, l'épaisseur de chair et d'affect obtenue par les procédés rhétoriques et stylistiques qui leur donnent une valeur littéraire et pas seulement philosophique. En fait, comme vous le verrez, mon analyse donc est plus technique, hein, que ce préliminaire ne le laisse penser. Je ne développe pas une analyse littéraire des dialogues de Platon, en effet, précisément à propos du rapport entre littérature et philosophie, c'est une façon de distinction qui est historiquement construite, hein. Je voudrais montrer sur le Gorgias que cette distinction n'a pas vraiment de sens, car il s'agit au contraire d'associer dans une étude intégratrice les éléments qu'on pourrait qualifier de littéraires dans une vue d'ensemble. Certes, les philosophes, dont je fais partie, habituellement s'intéressent surtout à la construction des démonstrations et des argumentations portées par le dialogue. Quand on enseigne en terminale, très souvent, on analyse un petit peu la progression du raisonnement et comment elle s'effectue, hein, et les réfutations. Mais je ne sais pas si on passe beaucoup de temps sur le prologue, sur l'épilogue et sur certains interstices ou sur certains détours ou sur certains petits passages dont on ne sait que trop faire. En fait, ces passages ont une portée philosophique, car la forme dialogue a pour intérêt de proposer simultanément au lecteur une conception du monde inscrite dans une perspective théorique qui est portée par les enchaînements argumentés et la mise en œuvre de cette conception dans un espace figuratif, narratif, qui est le répondant pragmatique de cet univers théorique projeté dans la progression dialogique. Ça, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Oui, ça veut dire, si tu veux, que, si vous voulez, que, là je m'adresse aux jeunes étudiants, qu'il ne s'agit pas simplement d'une analyse théorique de ce qu'est la rhétorique qu'on va chercher à disqualifier et de savoir s'il est plus... juste de vivre en injuste ou injustement condamné de mourir en juste, mais les effets, je dirais, de cette élaboration conceptuelle se dupliquent dans l'espace même du dialogue, car le dialogue crée un monde. Il y a des personnages, il y a des situations, il y a des interactions entre les personnages, et c'est toute cette vie foisonnante, alors dans le Gorgias particulièrement, hein, c'est pour ça que la remarque tout à l'heure sur les petits enchaînements très rapides des dialogues de Platon, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a une épaisseur textuelle, stylistique, rhétorique, qui fait que les idées de Platon, mais pas au sens idée avec un grand A, ce que dit Platon, se trouvent incarnées et mises en scène, agit en quelque sorte, dans la narration du dialogue lui-même. Est-ce que c'est clair, ça, éventuellement, les filles? Oui. Alors, si on peut prendre l'exemple du Gorgias, ici, par exemple, les interlocuteurs donc discutent sur le statut de la rhétorique et son rapport au juste. Ce n'est pas qu'une discussion théorique, puisque la rhétorique et l'éloquence politique et judiciaire ont partie liée dans la vie de la cité athénienne. Par ailleurs, faute de pouvoir définir ce qu'est le juste dans un dialogue à connotation aporétique, on s'intéressera à la question de la vie bonne, si elle doit être placée sous le signe de la justice. Et vous voyez que les personnages, dans leur relation, puisqu'on a trois personnages principaux auxquels s'affronte Socrate successivement, eh bien c'est un petit peu comme les Horaces et les Curiaces, hein. Ils vont être vaincus successivement, mais il faut se demander quels sont ces personnages, pourquoi ils sont là, pourquoi eux, quelles sont leurs caractéristiques, et pourquoi cette caractérisation personnifiante de ce sont des porte-manteaux, en fait, hein. Parce que évidemment, on aimerait bien, comme dans le film de Woody Allen, vous savez, où le personnage descend de la scène dans le cinéma, on aimerait bien que d'un seul coup Calliclès débarque, hein, et prenne vie. Après tout, c'est du théâtre. Et vous voyez qu'entre les dialogues de Platon et une représentation théâtrale, d'ailleurs il y a beaucoup de dialogues de Platon qui sont mis en représentation, il y a la question d'une incarnation d'une théorie. Mais là je suis en train de dévier, et si je commence là-dessus, j'en finis pas. Mais en tout cas, une incarnation qui fait que nous qui lisons, en fait nous ne sommes pas en face de Socrate. Vous voyez, Socrate est en face de ses interlocuteurs, mais nous, nous sommes en face de la personne effacée de l'auteur Platon, qui manigance quelque chose dans le rapport entre Platon philosophe et Platon écrivain. Et les choses ne sont pas si simples qu'il lui paraît. De temps en temps, il me semble que Platon écrivain joue des tours à Platon philosophe. Alors, les personnages du dialogue et le monde intersubjectif et social qui se déploie dans le cadre de leur interlocution servent de référentiel, certes fictionnel, constitue une sorte de référentiel, même s'il est de nature fictionnelle, mais qui est doté d'une vraisemblance suffisante pour produire un effet de réel qui adjoint une dimension ontologique à la dimension conceptuelle. Le juste et l'injuste ne sont pas seulement enjeux de proto-définition, d'image, de thèse, ils commandent des formes de vie qui sont actualisées au sein même du dialogue. Bon, alors, je ne vais pas trop continuer les préalables. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, jusqu'à quelle heure j'ai, Anne-Marie. 10h10, j'ai commencé, ça me fait jusqu'à quelle heure? C'est juste pour pas trop...
Je suis dans le sous-contrôle peut-être de Jean-Pierre.
D'accord, 45, d'accord, merci beaucoup. Alors, commençons par justifier la séparation provisoire entre ce que j'appellerais les aspects dialectiques et les aspects dialogiques du dialogue, même si cette distinction est sujette à caution. Hein. Et les distinctions que je suis en train de faire, elles sont fonctionnelles. C'est-à-dire que ce qui vaut à un plan ou fonctionnellement dans un dialogue peut être et se retrouver dans un autre dialogue. On peut en effet dans le Gorgias isoler des enchaînements, à l'écart des enchaînements argumentés, à côté des raisonnements et démonstrations qui permettent d'invalider ou d'étayer une thèse, un ensemble sur lequel je voudrais attirer plutôt l'attention. Hein. Autrement dit, je suppose connu l'enchaînement, le développement de l'argumentation générale qui est développée avec une longueur extrême. Hein. En terminale, par exemple, je sais bien qu'on n'y arrivait pas. C'est trop long. Alors, je ne sais pas comment font les agrégatifs, mais c'est un dialogue énorme. Enfin, je ne sais pas, moi, je suis un peu... C'est sisyphien, non? Non. Bon, l'Alcibiade majeur, je l'ai transporté dans ma petite édition quand j'étais petit, si vous voulez. Bon, ben, vous voyez, ça fait ça, l'Alcibiade majeur, plus les notes et le reste. Hein. Bon, donc, c'est autre chose. Bon, la plupart des dialogues, évidemment, sont beaucoup plus longs. Alors, mon hypothèse de lecture est donc que tout ce qui apparaît, tout ce qui paraît ne pas contribuer à cette progression des analyses philosophiques proprement dites, hein, ce qui occupe prologue, épilogue, n'est en rien contingent, mais entre dans une liaison intrinsèque avec les niveaux argumentatifs dialectiques, se situe dans une relation nécessaire avec la teneur explicite du propos. Alors évidemment, cela n'a rien de non plus très rigide, puisque le jeu entre les modalités expressives qui formatent le dialogue comme genre et passage de la parole d'un interlocuteur à un autre autorise la multiplicité des dialogues déployés dans l'univers de l'œuvre platonicienne. Je veux dire que le travail de séparation qu'on peut faire à l'intérieur d'un dialogue n'a de sens que si on compare l'ensemble des dialogues les uns avec les autres. Il me semble que pour comprendre les dialogues de Platon, on ne peut les étudier séparément, car on a affaire à une œuvre totale, mais et qui évidemment n'est pas construite exactement comme la phénoménologie de l'esprit. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre systématique. Chaque dialogue est en relation avec les autres sous des formes de transposition, sous des formes de mise en perspective, et l'ensemble des dialogues de Platon dont nous disposons forme une œuvre que j'appelle totale, mais c'est une totalité non close. On pourrait très bien écrire d'autres dialogues, la preuve, il se pourrait que l'Alcibiade majeur ait été écrit par quelqu'un d'autre. À partir du moment où on comprend le mécanisme du dialogue platonicien, on peut le réécrire, sauf peut-être qu'on n'aurait pas le talent de Platon. Mais parfois, dans les dialogues, quand nous les lisons, nous ne sentons pas du tout le talent de Platon écrivain, nous sentons tout le travail qui a été fait dans les exercices d'école qui se livraient à l'académie et qui sont un ressassement répétitif, qui sont de longues chaînes d'enchaînement. Hein, les dialogues de Platon, je crois que c'est quelque chose d'un petit peu composite, vous voyez, qui est fait à partir d'exercices d'école aussi. Enfin, je ne sais pas, on peut dire ça, non?
Je sais pas.
Ah, c'est la thèse de Gibbon Fry, en tout cas, hein, qui est un philosophe anglais qui a émis cette hypothèse. Je trouve cette hypothèse intéressante, ça expliquerait bien qu'on retrouve des segments qui se répètent d'un dialogue à l'autre et qu'il y a des moments où vraiment, il faut vraiment avoir envie de faire de la philo pour lire ça. Hein. Alors, quelles sont ces composantes que j'ai appelées dialogiques? Eh bien, je l'ai, pour des raisons, je dirais, de travail, hein, là encore, j'en sépare, ou j'en distingue, ou j'essaie d'en comprendre, hein, le fonctionnement à travers l'étude de deux composantes. Une composante scénique, contextualisante, qui pose des personnages, des relations entre eux, et à partir d'eux, évidemment, d'autres discours, des perspectives extradiscursives qui sont introduites dans les propos des uns et des autres et qui constituent autant de vues, de points de vue et de perspectives sur le monde et la vie sociale. Ici, la scène d'ouverture du dialogue, par exemple, se place d'emblée dans le contre-champ d'une autre scène, celle du grand discours de parade que Gorgias, applaudi par la foule, vient de faire et que Socrate est censé avoir raté. Alors, évidemment, il faudra analyser, hein, voir comment les différents dialogues de Platon proposent toutes sortes de configurations par lesquelles ces personnages sont mis en jeu à travers des discours qui peuvent être des discours rapportés. Hein, c'est-à-dire qu'un dialogue peut être rapporté par des personnages, mais à l'intérieur d'un dialogue, qu'il soit rapporté diégétique ou mimétique, on va trouver d'autres discours qui sont rapportés. Donc, vous voyez, en même temps, un dialogue, c'est un médiateur de mise en dialogue de tous les discours. Et pas seulement de tous les discours sur le plan de leur contenu, mais le dialogue est un lieu d'expérimentation des types de discours, puisque les différentes modalités selon lesquelles on peut énoncer quelque chose vont être retravaillées, discutées. Nous aurons des passages rhétoriques longs, des passages anecdotiques, des mythes, des fables. Hein. Donc un dialogue, si vous voulez, c'est un lieu polyphonique dans lequel viennent se mettre à l'épreuve, se confronter, s'articuler, hein, la multiplicité des discours. Autrement dit, c'est un discours de discours, on pourrait dire. Le second aspect, il est en quelque sorte plus technique. Ce serait ce que j'appellerais la composante conversationnelle du dialoguestai, c'est-à-dire une composante métadialogique dans laquelle on regroupera, parce que là je bavarde en fait, hein, mais bon, ça correspond tout ça, hein, je suis comme tout le monde, si vous voulez, on prend des petites fiches, on note, on accumule les relevés, il faut faire des relevés, très sérieux. Et donc, on regroupera tous les passages où les participants du dialogue thématisent, explicitent ce qu'ils sont en train de faire au moment où ils entrent en interaction et ce qu'ils évoquent au fur et à mesure qu'elles se développent pour en assurer le bon déroulement et en réorienter le trajet. Donc, vous voyez, il y a à l'intérieur des dialogues de très nombreux passages métadialogiques dans lesquels les personnages thématisent, discutent même et se disputent sur la façon de dialoguer. Alors, je commencerai simplement mon développement, mon analyse, là, par les segments métadiscursifs ou métadialogiques, hein, en disant qu'ils assurent la liaison intime entre les données dialogico-narratives, que je réserve pour mon second point, et les enchaînements argumentés, dont ils font partie, en fait, hein, car ils encadrent en permanence la progression dialectique, tout en supposant des prises de rôle, des changements de place, des stratégies qui renvoient aux personnes qui les énoncent et qui, dans ce travail d'énonciation, livrent nombre d'éléments sur eux-mêmes. Vous vous souvenez du plan du dialogue, hein, c'est un petit peu stupide de ma part de vous le rappeler alors que vous êtes tous plongés dans le Gorgias, hein, on vous voit dans le métro avec le livre ouvert, c'est très bien, ou dans le train pour revenir. Hein, ça fait bien remarquer d'avoir le Gorgias ouvert. Enfin, vous pouvez choisir Kierkegaard, c'est pas mal aussi. Hein. Alors, dans le prologue, alors j'utilise ce volume, mais en fait, je ne suis pas un helléniste, hein, j'utilise celui que vous avez, c'est-à-dire le Gorgias Platon, G.F. Flammarion, traduit par Canto. Hein, bon, alors mon volume, il est un petit peu... J'aurais voulu vous faire des exempliers, en fait, en prenant et en isolant tous ces petits passages, mais pour le faire, je n'avais que la traduction de Chambry, ou peut-être pas celle de Croiset, sur des sites on trouve, hein, des traductions, mais du coup ça, c'était peut-être un peu moins, parce que la traduction de Canto me semble intéressante, enfin plus intéressante. Alors le prologue 447-449, c'est-à-dire page 122-123 pour GF, hein, c'est la mise en place de la scène dialogique. Donc vous voyez, c'est un prologue en quelque sorte, et dans la plupart des dialogues on trouve ces formes de prologues qui parfois sont très complexes et qui supposent des connaissances historiques sur ce qui se passe à Athènes à ce moment-là, etc. C'est un moment de réglage. Puis,
l'entretien entre Socrate et Gorgias, 449 à 461, page 126, 153 GF, puis l'entretien entre Socrate et Polos, 461b, 481b, c'est 154-209, l'entretien entre Socrate et Calliclès, 481b, 523a, c'est page 209-303, avec un long monologue de Socrate, puis vient le mythe final du jugement des âmes et ses conséquences dans cette vie-ci, hein, une belle histoire véridique ou un conte à dormir debout. Bon, et puis il y a une dernière phase d'admonestation fiévreuse et ardente de Socrate qui, bien que renonçant à la conversion de Calliclès, fait comme si on pouvait quand même éventuellement traîner avec soi la troupe des disciples. Alors évidemment, si on pouvait avoir Calliclès comme disciple, mais je crois que tu vas montrer que ce serait bien peut-être un disciple.
Ouais, c'est possible.
Là, je suis très, 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 très anxieux de découvrir ça. Ça m'intéresse beaucoup. C'est très sympa, c'est marrant. Bon. Alors que moi, je fais de Calliclès, vous voyez.
L'antiphilosophe.
L'antiphilosophe. Hein. Et l'antiphilosophie, c'est une notion très importante hein, qu'on trouve jusque chez Badiou. Hein. Vous savez, Badiou, l'antiphilosophie, c'est quelque chose pour lui. Hein. Mais ce n'est pas Platon, l'antiphilosophe. Platon, ce serait au contraire le philosophe de référence. Mais justement, l'antiphilosophe sophiste, c'est aussi celui que combat Badiou. Hein, sous la forme du Wittgenstein, seconde manière, etc. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Hein. Alors, l'enchaînement des interlocuteurs est au nombre de trois, vous l'avez remarqué. Ce n'est pas un hasard. Il correspond à une structure que l'on retrouve dans nombre de dialogues ou parties de dialogues. La réfutation d'une position ou d'une thèse ne se fait jamais en une fois, mais dans un processus de gradation, d'amplification très souvent ternaire, qui se termine par une confusion de l'interlocuteur, qui se trouve alors saisi par une sidération, qui est un aveu d'impuissance. Il a été mis en contradiction à travers les chicanes de l'interaction argumentée et ne s'en est ni rendu compte, ni ne comprend pourquoi, mais doit bien le reconnaître à son corps défendant éventuellement. Et ce qui fait passer d'un protagoniste à un autre ici, parce que vous voyez ce moment de désorientation. Socrate, tu m'égares, je ne comprends plus rien, comment est-ce qu'on est arrivé là? Je suis bien obligé de reconnaître que j'ai tort. Hein. On trouve ce moment de désorientation dans le Ménon, dans l'Alcibiade majeur, dans le Protagoras, et en général, après donc, cette première série de trois réfutations, qui se fait souvent avec un seul personnage, on a une bifurcation dans le schéma dialogique général, si vous voulez, qui est soit la conversion, je me mets à l'écoute de Socrate, et parfois il y a un renversement de capture érotique, j'aurai pas le temps de rentrer, je prends dans les détails, on se met à la suite de Socrate, et on se met en route, hein, dans une sorte d'imitation du mode socratique d'interlocution. Et si on est vraiment doué, eh bien, on peut à son tour poser les questions et faire de Socrate éventuellement le répondant complaisant. Or, ici, ce n'est pas ce qui se passe. Hein. Nous avons trois personnages et les personnages sont pris dans un enchaînement argumentatif long et complexe, mais ils sont mis en contradiction, ils doivent reconnaître la contradiction, mais aucun d'eux, et c'est ça le drame, n'adhère à la défaite à laquelle il est contraint. Ce dont témoignent de multiples tentatives de fuite, modes de sortie, évitement, tentatives d'imposer un autre mode de discours. Alors le fait que le dialogue s'oriente vers une caractéristique adversative, hein, vous avez vu, je vois un peu des dialogues coopératifs qui sont sous le signe de la filia, de la bienveillance et des dialogues adversatifs. Mais en fait, dans les dialogues, il y a souvent des mélanges. Il y a des parties qui sont adversatives, d'autres qui sont coopératives. Mais on peut reconstruire une sorte de climat général. Hein. Le climat général du Gorgias est à l'opposé du climat général de l'Alcibiade. Montée vers la lumière, ascension progressive, par laquelle le disciple est simplement dans la filia, puis dans une fusion d'âme à âme, puisqu'en me contemplant dans l'âme de l'autre, ce n'est pas moi qu'au sud que je vois. Hein. Ça serait le narcissisme. Mais je vois le divin à travers l'âme de l'autre. D'accord ? Donc vous voyez que dans l'interlocution, dans la relation, je dirais, d'amitié philosophique, va se construire un passage d'une dimension érotique inversée à une dimension de fusion dans le divin. Ici, au contraire, il y a trois personnages, il y a un éclatement, une dispersion, et à mesure que ces trois personnages entrent en scène, j'avais pris l'exemple des Horaces et des Curias tout à l'heure, je ne sais pas s'ils se distinguent les uns des autres, mais ici, il y a une singularité de chacun des protagonistes, et ce n'est pas un hasard. En un mot, Gorgias est quelqu'un de pontifiant, hein, de complaisant, d'arrivé de reconnu, d'installé vis-à-vis de qui Socrate se met dans une posture de révérence feinte, hein, pour le disqualifier, mais avec une certaine courtoisie. Polos, c'est le jeune chien dialecticien, c'est le petit roquet qui aboie et qui veut se faire bien voir de son maître et qui va tenter, si vous voulez, d'imposer, avec une certaine violence quand même, hein, éristique, agonistique, son point de vue à Socrate, au point même qu'il assume, lui, hein, ce que Gorgias n'a pu assumer, même s'il devra le concéder par la suite, et surtout, il tient dans la posture et les rôles dialogiques la posture du questionnant. Hein. Il questionne, même si à un moment Socrate lui souffle les questions qu'il doit lui poser. Et quant à Gorgias, lui, quant à Calliclès, il me semble que, vous voyez, en même temps, il n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard si le jeune homme, Polos, est le deuxième. Parce que c'est le moment où on pourrait imaginer éventuellement une conversion. D'ailleurs, il y a des passages qui ont des indications érotiques. On pourrait retourner, en quelque sorte, arracher à la sophistique et à la rhétorique ce beau jeune homme bien fait, si vous voulez, hein, qui attire Socrate comme les jeunes gens l'attirent, mais pour des raisons qui, vous l'avez bien compris, sont purement platoniques, n'est-ce pas ? Bon, alors, voyez le banquet et vous serez renseigné là-dessus. Alors donc, lui, Polos, pourrait éventuellement, vous voyez, devenir un disciple potentiel. Donc, et Gorgias en position haute par rapport à Socrate, et Polos, j'allais dire, en position basse de celui qui veut, qui est un prétendant, ne sont pas dans une symétrie par rapport à Socrate, alors que Calliclès, lui, est exactement en face, frontalement, de Socrate. Hein? Et c'est pour ça que j'en fais l'antiphilosophe, parce qu'il me semble, et justement, son travail, c'est la disqualification de la prétention de la philosophie. C'est la disqualification de ce personnage socratique, hein, dont il se moque d'une façon extrêmement agressive et extrêmement violente. Bon. Et donc, ici, en quelque sorte, le dialogue change complètement. Hein, mais je suis en train de foutre en l'air mon exposé, là, hein, puisque j'étais dans les dimensions conversationnelles. Bon. Alors, laissez-moi, si vous voulez, juste terminer de quelques mots les dimensions conversationnelles que j'étais en train de mettre en évidence. Hein. Donc ça, si vous voulez, quand on improvise, voilà à quoi on s'expose, mais c'est en même temps, c'est sympa, c'est drôle. Bon, en tout cas, c'est vivant. Voilà. C'est ce que... Bon, il y a des choses dans Platon là-dessus. Alors donc, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, c'est le premier épisode du dialogue, c'est un moment de réglage dans lequel on fait des essais, on met à l'épreuve des possibilités de discours, et en même temps, on établit un pacte conversationnel, puisque Socrate obtient, en s'appuyant sur la vanité et la suffisance de Gorgias, que celui-ci concède de procéder par questions et réponses courtes. Et Gorgias dit, mais j'ai fait un très long discours, je ne vois pas pourquoi je pourrais en faire un petit. Hein? Et on a même l'impression qu'il fait l'éloge de la brièveté formulaire telle qu'elle est développée par Platon dans le Protagoras, où on fait l'éloge, Socrate fait l'éloge des Lacédémoniens qui ont l'art du très bien envoyé. Mais en fait, ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de procéder par questions et réponses courtes dans laquelle chacun peut prendre la place de répondant ou d'interlocuteur. Et vous voyez bien que lorsqu'on entre dans ce contrat conversationnel, deux fois, trois fois, Socrate demande à Gorgias s'il va bien s'y tenir. Et Gorgias dit oui. Mais il y a certains moments où il y aura des dérapages. Voyez, où d'un seul coup, on part vers le discours long. On va le trouver aussi bien avec Polos qu'avec Gorgias. Et Socrate lui-même, à un moment, fait un discours long et le fait uniquement parce que son interlocuteur ne veut pas continuer l'interaction. Alors, une fois que ce contrat est établi, eh bien, le dialogue, vous voyez, est conduit et réglé parce que ce pacte conversationnel, il est fragile. Il va se défaire. Il faut réexpliciter des règles. Alors, ces règles, eh bien, on peut en faire un inventaire, et c'est cet inventaire que j'ai fait dans un petit papier qui est encore naïf, parce qu'il y a très très longtemps que j'ai ressorti quelque chose d'un petit peu ancien, et j'ai bien peur que ce soit quand même un petit peu bricolé. Mais vous voyez, l'ensemble de ces règles que je vous propose là, c'est un petit peu un récapitulatif de l'ensemble de ce qu'on peut tirer de l'étude de ces petits passages méta-conversationnels. Hein. Alors là, je les formalise parce qu'en fait, c'était à une époque où je voulais les mettre en rapport avec certains éléments de la pragmatique transcendantale de Carl Otto Appel. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a eu un tournant linguistique dans, dans la philosophie du XXe siècle et que Carl Otto Appel, Habermas et un certain nombre de penseurs ont essayé de montrer le lien qui existe entre l'interaction dialoguée ou argumentée entre des participants et les règles éthiques sous-jacentes et les dimensions éthiques sous-jacentes. C'est-à-dire que si tu parles avec moi, tu supposes que ce que tu dis a un sens. Si tu parles avec moi, tu supposes que tu ne dois pas m'interrompre. Si tu parles avec moi, tu supposes que lorsque tu as dit quelque chose, bah, tu es comptable de ce que tu as dit. Ah, c'est bien toi qui l'as dit ? Oui, c'est moi qui l'ai dit. Partout, vous trouvez ça dans le dialogue. Hein ? Et justement, le schéma un petit peu opposé, mais qui est un schéma de la sophistique selon Platon, hein, non pas de la sophistique telle qu'elle est. Nous sommes dans la sophistique telle que Platon la thématise, la configure dans ses dialogues, eh bien, on aura de la transgression de ces règles. Et tout au long du Gorgias, on va voir cette transgression. Hein. Il y a un moment où Paulos, par exemple, « Non, non, c'est pas moi qui l'ai dit », ou Calliclès, « Je comprends pas ce que tu veux dire ». Bon, on pourrait peut-être s'arrêter maintenant. Hein. Là, je dis pas ça pour moi, mais peut-être que c'est l'heure aussi. Hein. Mais c'est dans le dialogue. On pourrait peut-être s'arrêter maintenant, et qu'est-ce qu'en pensent les auditeurs? Parce que vous voyez que de même que nous, nous sommes au spectacle, en regardant, en lisant le dialogue de Platon, eh bien, les trois personnages et Socrate sont eux-mêmes sous le regard d'un public qui n'est pas la grande foule qui applaudit, si vous voulez, comme pour le discours de Gorgias, hein, mais qui est un cercle d'amis. Et donc, il y a des enjeux, il y a des témoins. De même que toi, tu es la pierre de touche pour savoir si ce que je dis est cohérent, eh bien, les interlocuteurs qui sont, enfin, le public qui est autour, hein, est sommé d'intervenir parfois. Et donc, malheureusement, à chaque fois que ou Gorgias, ou Paulos, ou Calliclès veulent sortir de l'interlocution, eh bien, il y a toujours quelqu'un pour les y remettre. Ça veut dire qu'on doit aller jusqu'au bout de la procédure, hein, quel qu'en soit le prix ou le coût. Bon, alors évidemment, je suis perdu parce que c'est presque fini. Hein. Alors, c'est donc le papier que je vous ai donné là, c'est un petit peu une sorte de récapitulatif, un petit peu formel, un petit peu exagéré de ces règles. Mais si vous prenez le Gorgias, eh bien, vous pouvez retrouver chacune de ces règles hein, sous-jacentes au petit moment méta-conversationnel. Bon, et pour finir, hein, donc je devrais développer maintenant, si j'avais le temps, ce que j'ai appelé tout à l'heure les interactions dialogiques, mais j'en ai dit déjà pas mal de choses. Hein. Alors, vous voyez, les règles que j'ai données là, c'est une présentation prescriptive. Hein. Si tu veux entrer dans un dialogue de bienveillance tel qu'il rendra possible la détermination des essences et l'accès à la science, il faut que tu suives telle et telle règle. Mais dans les dialogues eux-mêmes, évidemment, tout ça, c'est agi. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, on rappelle à la règle. On dit « Attention là !» Tu dis le contraire de ce que tu as dit. Ça, c'est une règle d'enchaînement et de cohérence logique. Mais tu te mets toi-même dans l'incohérence. Est-ce que tu peux dire simultanément deux choses contradictoires? Est-ce que ton être est scindé? Ou bien est-ce que tu es de mauvaise foi? Est-ce que c'est bien toi qui as dit ce que tu as dit? Vous voyez, c'est permanent ce genre de travail, hein, d'interaction conversationnelle. Alors, quant à la scénographie, si je puis dire, dramatique... On peut dire que l'échec du dialogue est inscrit d'avance par la position structurante du dispositif scénique. Quand j'appelle échec, c'est un dialogue magnifique. Hein, il n'y a pas d'échec, ça va très loin. Parce que si on ne peut pas remonter vers les essences en déterminant la nature du juste, on a quand même disqualifié la rhétorique dans ses prétentions et on a acquis des exigences obligées comme qu'il vaut mieux vivre en subissant l'injustice qu'en la commettant, et qu'on peut même éventuellement mourir hein, mourir injustement hein, pour ne pas vivre dans l'injustice. Alors cet échec est inscrit d'avance parce que l'éthos, je dirais, et le jeu de rôle associé à la définition des dramatis personae contraignent les interactions hein, de telle sorte qu'aucun retournement ne peut être espéré dans la défaite argumentative. Et puis, j'ai montré que l'interlocution passe par trois voies qui se succèdent, ce qui rend impossible la conversion. Puisqu'au moment de la confusion maximale, un autre personnage prend le relais. « Ah, mais moi, Paulos, je suis le plus fort hein. !» Il interrompt carrément. Hein. Il entre en jeu en disant, je vais dire, mais d'ailleurs, il avait déjà commencé par dire, c'est moi qui vais répondre à Socrate. Hein. Et puis, bon, progressivement, on l'avait un petit peu écarté en disant, non, c'est plutôt Gorgias hein, qui est mon véritable interlocuteur. Mais maintenant, donc, Paulos prend, si vous voulez, le relais, hein, et une fois que lui sera obligé également, réfuté, d'admettre qu'il est en contradiction, eh bien, c'est Calliclès qui intervient brutalement et qui prend la parole. Du coup, vous voyez bien qu'on ne peut tirer aucun profit de la confusion désorientée de celui qui a compris qu'il est en contradiction. Et voilà pourquoi, la plupart du temps dans le dialogue, les personnages vont se laisser arracher des aveux à leur corps défendant. Et puis l'impossibilité, c'est la troisième raison, du passage du côté droit, si je puis dire, grâce à une reformulation des règles de bonne formation du dialogue qui le hausserait au statut de dialogue coopératif, s'explique par le fait que la série des trois personnages suppose trois formes d'interaction avec trois figures singulières. Bon, alors, comme il est moins quart, je vais simplement terminer, vous voyez, sur une sorte de syllogisme transitif, en disant que si Gorgias, alors Paulos, si Paulos, alors Calliclès, donc si Gorgias, alors Calliclès. Autrement dit, le processus qui est mis en œuvre dans la fragmentation ternaire, dans les paliers d'argumentation et de mise en relation, débouche, vous voyez, sur une démystification double de la rhétorique, à la fois sur le plan théorique et sur le plan de ses représentants. La vérité de Gorgias, personnage autosuffisant, c'est Calliclès. Voyez. Et en contrepartie, eh bien, Socrate va lui aussi hein, progresser. En fait, on a Socrate 1, Socrate 2, j'avais envie de dire Socratix, mais ce serait un jeu de mots un peu vulgaire, si vous voulez. Hein. Mais vous voyez qu'on a trois Socrates, en quelque sorte. Hein. Et le troisième Socrate, ben, j'allais dire que c'est le Socrate qui se, je dirais, qui se figure comme philosophe sous les auspices de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que je l'ai dit plusieurs fois, sous les auspices de la mort, hein, c'est que... allez, je laisse mes notes, parce que sinon... Donc, simplement pour dire que, dès sa prise de parole, Calliclès envisage une hypothèse, hypothèse qu'on retrouve dans d'autres dialogues, par exemple dans le Ménon, qui est une menace. Que t'arriverait-il, Socrate, si tu étais placé devant un tribunal? Et effectivement, on retrouve ici ce qui est développé dans d'autres dialogues, et dans ce tribunal, ben, tu serais condamné à mort. Et pour Calliclès, c'est la risibilité de la philosophie, vous voyez, cette activité dérisoire faite pour des jeunes gens, un peu boutonneux. Hein. Mais Socrate, tu es bien trop vieux pour pratiquer cela. Et donc, tu ne pourrais même pas te défendre et tu serais mis à mort. Bon, et vous voyez qu'il y a là les mêmes accusations que celles d'Anitos dans l'Apologie. Hein. On retrouve dans de nombreux dialogues l'émergence à certains moments précis de ces dialogues d'une menace de mort. Et ce qui se passe, c'est que Socrate, ne répond pas tout de suite. C'est un peu idiot de dire Platon, un lapsus pour Socrate, puisque au contraire, je crois qu'il y a une différence entre les deux. Hein. Socrate ne répond pas parce qu'il lui faut tout le développement de l'entretien avec Calliclès hein, pour démontrer, au fond, qu'il est nécessaire d'accepter, quand on est philosophe, la mort, car philosopher, c'est apprendre à mourir. Et on a les derniers passages, enfin, certains moments qui sont très beaux, dans lesquels Socrate dit « Oui, effectivement, je préfère la mort que l'injustice, et je n'utiliserai pas la rhétorique pour me sauver comme on me le propose. » Bon, excusez-moi d'avoir un petit peu saboté, mais en même temps oralisé ma communication. À partir de là, vous voyez que, bon, je ne suis pas suffisamment fier de ce que je vous ai fait pour dire que je résous quelque chose, mais il me semble qu'on apporte un certain éclairage à la construction globale du Gorgias, hein, qui nous apparaît comme un dialogue complet, même s'il ne fait qu'une partie du chemin, et qui nous donne une sorte d'approfondissement, je dirais, symétrique, hein, de la teneur philosophique et des opérateurs scéniques qui permettent d'engendrer ce dialogue. Voilà.